atelier avec l'artiste Nazanine Pouyandé. Une visite sonore au micro de Julie Chaise-Martin. C'est un huis clos à deux voix, un instant presque volé, un moment de couleur en suspension, de matière en création. Au milieu des toiles, des cadres, des pinceaux, des crayons, des burins. La voix des artistes se soulève et fait naître des images.
C'était pour moi devenu un fantasme de vivre à un endroit où je me lève, juste je mets l'habit de l'atelier et je me mets à peindre dans un confort, au milieu des objets que j'aime. Et il n'y a plus le métro, il n'y a plus ce temps qui me sépare de la toile, etc. Donc voilà, on a acheté cette maison atelier et j'y suis depuis 3 ans.
Une maison atelier. Voilà comment Nazanine Pouyandé définit son lieu de création, situé à Arcueil. Dans un coin du salon, les toiles figuratives, colorées, sont offertes au regard, inachevées, encore en cours de création. Sur une commode, des masques africains que l'on retrouve dans le décor de certaines de ses scènes peintes. Nazanine Pouyandé est peintre depuis 20 ans, depuis qu'elle a dû quitter à 18 ans son Iran natal, suite à la mort de son père, victime d'un assassinat politique. Au cœur de son imaginaire, la force des images, leur représentation dans nos vies intérieures, les images rêvées, images symboliques, qui construisent nos mémoires, notre quotidien, nos émotions et le décor de nos fantasmes ou de nos désirs. De cultures, de mythes et de mystères différents, elles foisonnent dans les œuvres de Nazanine, micro-histoires narratives sans filtre. Car pour elle, la peinture, c'est sa respiration, sa liberté. Plus récemment, c'est l'Afrique qui l'a touchée profondément. Petit à petit, ces images multiples, civilisationnelles, construisent un univers qui parle d'œcuménisme, de métissage. À vrai dire, en l'écoutant, on comprend qu'il n'y avait pas d'autre choix que la peinture pour que sa liberté soit sans limite et s'épanouisse. Régulièrement exposée par la galerie Sator, qui la représente depuis plusieurs années, l'artiste a aussi été montré dans plusieurs centres d'art, à la Fondation Salomon, au Suquet des artistes à Cannes, au Château de la Trémolière ou encore à Berlin et à Cotonou. En ce moment, elle participe à l'exposition Ex Africa, présence africaine dans l'art d'aujourd'hui, organisée au musée du Quai Branly jusqu'au 27 juin 2021, avec évidemment l'espoir que les musées rouvrent bientôt.
Collectionne un petit peu?
Collectionner en particulier les masques africains, c'est arrivé vraiment avec mon voyage en Afrique en 2017 au Bénin, dans le cadre d'une résidence d'artiste qui s'appelle Le Centre. Depuis pas mal d'années, je m'intéresse énormément aux objets des différents rituels, de ce qu'on appelle les arts premiers ou de l'art populaire. Cet intérêt vient de deux facteurs, je pense. Premièrement, parce que ça accentue le côté justement théâtral et surjoué des scènes de mes tableaux. Deuxièmement, l'art est là, surtout pour communiquer avec le spectateur sur les forces qui nous construisent, les instincts premiers. Cette fonction, malheureusement, qui est négligée entièrement d'une grosse partie de l'art savant, existe complètement dans ce qu'on appelle les arts premiers ou les arts populaires. Et en fait, en utilisant ces objets-là dans mon travail, je fais hommage aussi à cette fonction de l'art. Et en 2017, quand je suis allée au Bénin, j'arrive au mois de janvier. Comme par hasard, c'est le moment annuel des cérémonies vaudou. Alors là, il y a vraiment ma tête qui part ailleurs.
Qu'est-ce que tu as vécu alors précisément? Tu as vécu une cérémonie vaudou?
On a assisté à pas mal de cérémonies, on avait partout. C'était la semaine annuelle. Et je pense que le rapport au sacré, pour moi, dans un pays comme le Bénin, est beaucoup plus simple que dans mon propre pays d'origine, avec lequel j'ai des difficultés, j'ai des problèmes. Et là, le sacré, je le voyais avec du recul. Donc, au bout d'une semaine, 10 jours de voyage au Bénin, je m'installe au centre, à Cotonou. Et là, j'avais comme mission de peindre des tableaux pendant 5 semaines et faire une expo à la fin des 5 semaines. Et alors, j'étais vraiment habitée. C'était vraiment très fort. Et la rencontre avec la population, c'était extraordinaire parce que déjà, donc pour mes tableaux, je demande aux gens de poser. Mmh. Donc, je demandais presque dans la rue à des jeunes s'ils voulaient bien poser. Et c'était tout de suite oui, à chaque fois. Cette liberté, cette facilité, ça me fascinait. On était tout de suite en Afrique dans des choses les plus essentielles de la vie, sans ce surconfort et surconsommation qu'on a ici. En fait, l'atelier où je travaillais, c'était un espèce aussi d'atelier porte ouverte en permanence. Les gens pouvaient passer à n'importe quel moment. Et moi, les phrases que des gens m'ont sorties sur mon travail m'ont marqué à jamais. Par exemple, il y avait le gardien du centre qui venait dormir devant mon atelier parce que je travaillais jusque très très tard et il voulait garder l'atelier, faire attention à moi. Et à un moment, j'étais en train de peindre des petits poissons sur un tissu rouge, un wax, derrière mes personnages, et ça prenait énormément de temps, c'était avec des pinceaux très fins. Et puis il regarde, et puis une heure plus tard, il revient, il voit que je suis encore en train de faire des petits poissons, et puis il me dit « Toi, t'es une sorcière des images. » Une autre fois, un sculpteur béninois, il passe et il me dit « Oui, toi, tu prends beaucoup ton temps et c'est ainsi que le monde t'écoutera plus. »
Et c'est joli.
C'était toujours très poétique, très fort et très direct. Et je pense qu'en fait, j'ai fait une forme de transfert en Afrique entre justement la force de croyance vaudou et la force des convictions des images de façon universelle. Parce qu'une image et l'impact de l'image sur l'inconscient, c'est très, très fort. Et du coup, j'ai acheté des masques là-bas, des masques guélédés, qui viennent en fait de l'Afrique de l'Ouest. De manière générale, je ne suis pas quelqu'un de très nostalgique, mais alors là, l'Afrique, partir de l'Afrique, pour moi, c'était dur. C'était comme si je retrouvais une partie de mes racines de façon inconsciente. Et,
quelle partie, justement, puisque c'est... Donc, ton pays d'origine, c'est l'Iran.
La partie... existentiel, quelque chose, voilà, que je te dis, l'essentiel de la vie. J'ai retrouvé quelque chose, un sentiment par rapport au vrai de la vie là-bas, qui m'appartenait et que j'ai retrouvé là-bas et que presque j'avais oublié que ça existait.
Est-ce que c'est ce que tu recherches quand même aussi dans tes images, un petit peu ? Retrouver des instincts premiers
C'est toujours des images assez inconscientes. Qui peuvent venir comme des images de rêve, qui racontent en fait plein de choses. Mais oui, il y a énormément de liberté. Ça veut dire quand il y a une image que j'ai envie de peindre, je ne me pose pas de questions, c'est sans filtre. Et en fait, oui, ça raconte souvent comment l'homme gère ses émotions, ses instincts, que ça soit la peur, la mort, le désir, la guerre... En fait, on oublie qu'on n'est fait que des instincts comme ça dans nos civilisations où il y a énormément de filtres.
Tu t'es mis à te prendre de passion pour ces masques africains, à les collectionner. Oui. Tu as parlé un peu de ce qu'ils évoquent aussi sur des rituels.
Oui.
Peut-être qu'ils renferment même une certaine magie, d'ailleurs.
Oui.
C'est peut-être ça qui te plaît.
Oui.
Peut-être sur cette magie intrinsèque des images.
Ce qui me fascine énormément avec les masques africains, c'est cette magie, cette puissance, mais c'est aussi formellement, c'est des objets très simples, très géométriques, et ça, c'est tout le contraire des objets d'art populaire iranien, qui sont justement très détaillés, énormément d'ornements, et là, on est dans une sobriété, quelque chose de direct, qui atteint tout de suite nos émotions, et en fait, c'est un objet qui est plus fort que nous. Parce qu'il a une histoire, il appartient à des rites. C'est un objet qui est puissant pour moi. Donc, et c'est cette puissance aussi que je retrouve, j'ai envie de retrouver quand je peins un masque africain.
On peut dire que c'est un petit peu ce qu'avaient ressenti les modernes, les artistes des années 20-30, qui se sont mis aussi à collectionner les objets, les arts premiers, ce qu'on appelait les arts
bien
premiers,
sûr.
Qui ont aussi influencé leur peinture.
Bien sûr, je pense que on est tous, on peut être tous fascinés quand on rencontre ces objets, ils sont puissants. C'est une puissance et c'est une force qu'il déclare et on ne peut pas être neutre face à ça.
Et tu parlais tout à l'heure du rapport au sacré, de l'image qui a effectivement un rapport très ténu avec le sacré, avec les religions. Tu viens d'un pays où finalement il y a peu d'images. Dans ton travail, il y a une boulimie d'images, c'est l'inverse. C'est retrouver peut-être, faire ressurgir d'une certaine manière des images qui sont un peu enfouies, qui sont un peu dissimulées par ces croyances-là.
Quand j'ai quitté l'Iran, j'avais 18 ans et c'était en 99. C'était l'époque où l'Internet n'existait même pas beaucoup en Iran. C'est vrai que l'accès à l'image était presque pas existant. Les seules images que j'avais connu dans ma vie, c'était des portraits de propagande et des affiches de cinéma qui étaient à l'époque encore peintes à la main. Mais j'ai grandi dans un milieu culturel évolué, mes parents étaient intellectuels, je savais que la peinture existait, je savais que les musées existaient, mais j'avais pas accès, à part des livres que mon père achetait, etc., que d'ailleurs il commandait à l'étranger, ça venait en contrebande.
Mais la force effectivement émotionnelle et la force aussi, la force sacrée d'une image,
oui.
Ça, quel rapport tu avais avec ça
En fait, justement, quand je suis arrivée en France et que j'ai découvert l'océan d'images partout, je suis en train de réaliser que c'était en lien avec cette liberté qui n'existait pas en Iran. Et cette boulimie d'images, c'est aussi cette liberté que je retrouvais, c'était comme respirer. Je respirais un air libre, je respirais aussi toutes ces images qui n'existaient pas. Donc il y avait ce lien. Mais la force du sacré dont tu parles, c'est que, je voulais revenir dessus, mes premières peintures, quand j'ai commencé à peindre aux Beaux-Arts, étaient malgré moi complètement influencées par ces portraits de propagande. Et c'est ça la force de la conviction des images. Ça veut dire une image que vous voyez tous les jours, même si vous ne l'aimez pas, même si vous la méprisez, elle vous atteint dans les endroits les plus inconscients de votre être, et elle vous constitue en fait, tout simplement. Et ça peut être presque flippant. C'est aussi fort que ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Ça veut dire un Camerounais, un Français, un Iranien peuvent au même moment rêver d'un serpent et symboliquement, et dans l'inconscient, c'est la même chose. Une image, c'est pareil. D'ailleurs, le serpent apparaît dans l'inconscient en forme d'image. Et donc, tu m'as demandé pourquoi je retravaillais du coup des images aussi qui viennent des différentes religions. Petit à petit, après avoir connu tant d'images partout, que ce soit en film, dans les musées, la BD, la publicité, il fallait que mon inconscient fasse le tri. Justement, je me suis petit à petit énormément intéressée au concept de l'inconscient collectif de Jung. Et à cette chose qui dit qu'en fait, à la naissance, l'inconscient collectif a autant d'influence sur l'homme que les gènes. Et ça, c'est complètement fascinant. Et qu'il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à exprimer avec le langage que le cerveau fabrique en permanence des symboles. Donc les symboles ne sont pas forcément des symboles préconnus comme tout ce qu'on reconnaît, mais il y a aussi des symboles inconscients en permanence. Dans mon travail, il y a les deux. Il y a les symboles préconnus que j'utilise. Et ce que j'aime dans ces images, c'est qu'en fait, j'utilise les images qui appartiennent à tout le monde, que ça soit donc une image chrétienne comme Saint Sébastien ou une image qui vient de la religion hindoue ou qui vient de l'estampe japonaise, parce que c'est des images qui sont démocratiquement à tout le monde. Je fais en sorte que ces images soient à moi, avec mes filtres à moi. Donc il apparaît une troisième chose, ce qu'on peut appeler une image créolisée. Ça veut dire on n'a pas prévu ce que ça allait être, cette rencontre de ces deux forces. Donc il y a une troisième force qui apparaît. Et,
donc là, tu cites aussi Édouard Glissant,
oui,
qui est ce philosophe martiniquais qui oui. parle justement de ce métissage,
cette créolisation. Il oppose le métissage et la créolisation dans le sens où, bon, lui, quand il invente la théorie de créolisation, il parle surtout des mouvements des populations noires à cause de l'esclavage et ce que ça a fabriqué ensuite en langue, en culture, en art. Mais en fait, cette théorie de créolisation qu'il oppose au métissage, parce qu'il dit le métissage, on peut estimer ce que ça peut être à peu près. La créolisation, c'est imprévu. C'est dans l'accident, on ne sait pas. Mm-hmm. Et c'est ça qui est magique. Mais cette théorie existe en tout, pas seulement dans la rencontre humaine, mais dans la rencontre d'une autre civilisation. Et moi, d'origine iranienne, vivant en France, quand je vais au Tibet, il y a une troisième chose qui apparaît, en tout cas dans ma tête, et du coup dans mon art. Et aujourd'hui, avec les éclatements des frontières, dû beaucoup aussi aux situations de la guerre, etc., on va être de plus en plus... C'est vraiment l'avenir du monde, cette théorie, la créolisation. Et quand je peins un Saint-Sébastien, ça fait écho tout de suite à une image préconnue pour tout le monde, et pourtant il y a un décalage. C'est Saint-Sébastien, et ça l'est pas. Je trouve que c'est cet endroit qui échappe, qui est aussi très intéressant. C'est un Saint-Sébastien à moi, que j'ai peint moi, avec tout mon bagage culturel, avec le patchwork de culture que je suis.
Et ton rapport à l'image, il a évolué depuis le moment où tu as commencé à peindre, où tu es arrivé aux Beaux-Arts à Paris et aujourd'hui?
Énormément. C'est vrai qu'au début... Au Beaux-Arts, j'étais très fascinée par l'espace public. Ça veut dire des choses que je découvrais, qui n'existaient pas en Iran. Les bars, aussi la mixité homme-femme, la fête foraine. Du coup, je peignais des personnages comme ça dans ces espaces. Et l'espace a eu énormément d'importance. Ensuite, petit à petit, l'espace est devenu plus intime. Mmh. Et je pense que ça, c'est lié aussi inconsciemment à mon vécu. Au début, j'étais fascinée par mon extérieur. Et petit à petit, je me suis intéressée à mon intérieur. Et du coup, les paysages sont devenus plus intimes.
Alors, c'est même ton intérieur féminin. Tes peintures sont quand même... Elles représentent beaucoup la femme aussi, et aussi les rêves, les fantasmes, les désirs, la tendresse féminine aussi, la sexualité. Il y a des hommes aussi, il n'y a pas que des femmes.
Bien sûr, il y a aussi des hommes. En fait...
C'est la nudité beaucoup aussi.
La nudité, justement, c'est une question qui est beaucoup posée concernant mon travail, parce que ça ne se fait plus beaucoup comme à l'ancien temps où la nudité était liée au classicisme. Aujourd'hui, on est complètement dans autre chose et la nudité est tout de suite liée à l'érotisme. Pourtant, dans ma peinture, la nudité est liée, je dirais, à tous les instincts et pas forcément au désir. Ça veut dire, en fait, c'est l'homme ou la femme dans son état le plus naturel, sans les filtres de la civilisation. Ce qui compte pour moi, c'est pas représenter en particulier la femme, c'est peindre l'être humain tel que je le connais le mieux. Et puisque je suis une femme, je connais mieux la femme que l'homme.
Voilà. Tu me disais que tu avais été touchée par une collectionneuse qui t'a acheté une toile et qui t'a dit cette phrase « Nazanine, vous peignez des femmes comme personne ne les peint aujourd'hui ».
Oui, ça m'a beaucoup touchée parce que je pense que j'ai compris pourquoi elle disait ça. Elle disait, ça parle énormément d'une complicité entre femmes qui n'est pas forcément sexuelle, même si les femmes sont nues, elles se touchent, mais il y a aussi une tendresse, il y a une compréhension entre elles et il y a un mystère qui nous dépasse. Et aussi, moi, je viens de l'Orient. Moi, quand j'étais même au collège ou au lycée, les copines, on avait l'habitude de se laver ensemble. Le hammam, c'est un principe qui n'est pas du tout sexuel. Il y a une chose, il y a une complicité entre le même sexe qui n'est pas forcément liée au désir et à la jouissance sexuelle. Bien sûr que c'est agréable de toucher une autre peau, mais ça ne fait pas la même chose. Et parfois, j'ai l'impression qu'il faut que je me justifie parce qu'on me demande souvent. Alors, ça part de sexualité entre femmes, etc. Moi, ce que je pense, c'est au-delà de ça.
Tu as réalisé aussi un coffret de gravure.
Oui.
Avec une autre artiste iranienne, je crois.
Oui.
De quelle manière ce travail s'inscrit dans ce que tu fais en général ? C'est-à-dire que tu fais plutôt des peintures, là ce sont des gravures. C'était un coffret, donc un objet un petit peu secret, intime justement.
Ben, en fait, c'était très intéressant. J'ai rencontré cette jeune iranienne qui s'appelle Sari Parideh. En fait, le principe, c'était qu'il fallait que je fasse des dessins. Et elle allait faire des photogravures, donc elle allait projeter l'image des dessins sur des plaques et ensuite faire des impressions. Je lui ai demandé où elle allait faire ça. Elle m'a dit qu'elle allait faire ça en Iran. J'ai dit, est-ce qu'il y a des choses à respecter ? Elle me dit, non, tu es entièrement libre. Et cette liberté de cette jeune femme iranienne m'a énormément touchée parce que, en fait, moi, mes amis iraniens maintenant de France, c'est des gens qui ont mon âge ou qui sont plus âgés. Je rentre plus en Iran depuis des années, depuis 17 ans maintenant. Et donc, je n'ai plus du tout de rapport avec la jeune génération iranienne.
Donc à travers elle, en fait, tu as un petit peu reconnecté avec peut-être ce qui se passe chez la jeune génération iranienne d'aujourd'hui.
En tout cas, j'ai projeté quelque chose.
Oui.
Je ne sais pas si c'est réel parce que c'est une fille très émancipée. Elle va en Iran et elle vient aussi ici. Elle vit dans les deux pays. Ce n'est peut-être pas la représentante de toute la jeune génération, mais en tout cas, j'ai projeté quelque chose. Et du coup, je lui ai dit, j'ai un peu réfléchi, j'ai dit, écoute, puisque tu vas faire ça en Iran, c'est un objet qui se ferme, qui s'ouvre, j'ai envie de mettre des secrets dedans. Est-ce que tu serais capable de graver des plaques de gravure érotique ? Elle me dit, oui, mais tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Et pour moi, ça a été un challenge et du coup, j'ai inventé un personnage qui s'appelle Mina et ça a été pour le coup des images explicitement très érotiques qui seraient liées au fantasme de ce personnage, mais en fait qui est le représentatif de les fantasmes de tout le monde, parce que tout le monde a des secrets. Tout le monde met ses secrets dans un petit coffret en soi.
Oui, il y avait une jolie phrase que tu avais dite à ce propos de ce coffret. Le fantasme est inhérent à la vie intérieure de chacun d'entre nous. Le secret en est le prix à payer pour vivre en paix dans une société.
Bien sûr. Parce que l'homme sans le fantasme, il n'existe pas. Tout le monde en a. Dans ma peinture, en général, je ne cherche absolument pas à provoquer ou à transgresser. Ce que je cherche, et c'est dans ma vie d'être humain et dans mon travail, c'est d'être libre. Et dans ma peinture, il y a une énorme liberté. Pour moi, peindre, c'est comme respirer, il faut que ça soit libre.
Et quand tu es arrivée à Paris, tu avais déjà l'idée de devenir peintre ?
Ben, en fait, mon papa qui a été assassiné en 98 parce qu'il était intellectuel en Iran, il était traducteur de la langue française. Donc la France m'a accordé une bourse et on m'a dit, en fait, si tu es accepté dans un établissement prestigieux, on prolonge ta bourse. Donc à l'époque, je faisais de la peinture, mais comme une jeune fille, j'avais 18 ans. De façon un peu plus professionnelle, je jouais aussi du violon.
D'accord.
Alors je me suis dit, je fais le concours du conservatoire et le concours des Beaux-Arts. Et en fait, je n'ai pas été acceptée au conservatoire. J'ai été acceptée au Beaux-Arts. Et je me suis dit, est-ce que je refais le conservatoire? Et je me suis dit non. Parce que justement, la musique classique, c'était un espace où je n'avais pas de liberté. Je jouais du violon et j'étais esclave de mon violon. C'était un petit diable qui me dominait. Alors que
carrément.
Vraiment. Et même, il fallait me bagarrer avec lui des heures par jour. Donc, ça s'est décidé comme ça, comment j'ai commencé à faire les Beaux-Arts.
Est-ce que tu penses que, d'une certaine manière, la culture iranienne, peut-être l'aspect un peu décoratif aussi, qui est plus présent dans ton pays, je pense, qu'en France, sur la manière de dessiner ou de créer, par exemple, des tapis ou des objets de décoration, ça se retrouve un petit peu dans tes œuvres
hein. La peinture est vraiment le miroir de ce qu'on est, que je décide ou pas.
Moi, c'est-à-dire que tu as quand même apporté, évidemment, avec toi, l'héritage, évidemment, de toute ta jeunesse et ton adolescence en Iran.
Moi, ce que j'aime, c'est... que cette partie culturelle, inconsciente, se fasse ressentir sans décision. Je vis en France depuis plus de 20 ans, 21 ans ou 22 ans, je ne sais plus. Mais j'aime vivre avec des tapis, j'aime de temps en temps manger iranien et j'aime parler de persan avec mes amis. Mais ce n'est pas une décision. Et ça me va, je ne suis pas en manque plus que ça d'autre chose. Et dans ma peinture, ce que j'aime, c'est que mes couleurs, je vois, elles sont différentes de la palette occidentale, mais ce n'est pas une décision. Je pense que c'est comme ça, juste que je vois le rouge, je le vois comme ça. Parce que j'ai justement, mon inconscient a été formé là-bas, l'impact de l'image, mon vert, c'est un vert qui n'est pas un verre occidental. La palette, elle est différente. Mais j'aime que ça soit une partie qui m'échappe. En fait, je n'aime pas décider de travailler sur mes origines. En fait, j'écoute mon inconscient. Et je n'ai pas besoin d'autre chose.
Et quand tu as commencé à étudier l'histoire de l'art d'un peu plus près, quelles sont les images, justement, puisqu'on parle d'images, c'est toujours des images, les peintures qui t'ont fascinée et qui continuent de te fasciner?
En fait, j'ai eu une grande fascination pendant très longtemps pour ce qu'on appelle Renaissance primitive.
Pour quelle raison, à ton avis?
Et la raison, c'était que, justement... les personnages devenaient plus petits et le décor devenait plus grand et il était imaginaire. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à peindre mes scènes complexes. Quand j'ai commencé à peindre aux Beaux-Arts, donc je t'ai dit, il y a eu une partie, j'étais très fascinée par les espaces publics, je peignais couloir de l'école, la salle de ciné, le casino, le bar, etc. Ensuite, quand c'est devenu plus intime, j'ai commencé à peindre mes amis et l'espace est devenu imaginaire, comme un patchwork de choses qui viennent un peu de partout et pas vraiment réaliste et en même temps réaliste. Et c'est exactement ça qui se passe dans la peinture de la Renaissance primitive. Par exemple, chez un peintre qui s'appelle Joachim Patinir, le décor, c'est un patchwork de rochers et d'arbres et d'océans et de lacs qui viennent de partout, avec des angles différents dans la même peinture. Et en plus, ce que je trouvais fascinant, c'était que c'était petit. C'était comme une petite fenêtre, mais où on voyait tout le monde et toute la variété des choses qui peuvent exister dans la nature, dans un petit bijou. Longtemps même, je me suis inspirée des peintures de la Renaissance. J'ai un stock de peintures dans mon ordinateur, donc... très régulièrement, je prenais un rocher comme ça qui venait d'une peinture. Mon travail est très lié comme une forme de collage. C'est des éléments qui viennent un peu de partout, de cultures différentes, des iconographies différentes et des espaces différents.
Si on revient à l'Afrique, justement, en parlant de toutes ces inspirations que tu intègres dans tes tableaux, il y a une exposition qui est organisée, montée par le critique d'art Philippe Dagen au musée du Quai Branly, alors qui n'est pas évidemment encore ouverte à cause de la crise sanitaire, mais qui, on l'espère, ouvrira ses portes prochainement. Donc tu fais partie des artistes qui sont exposés dans cette exposition. C'est une exposition collective. Donc évidemment, évidemment, j'imagine que ça t'a tout de suite séduit, puisque tu parlais avec beaucoup de passion de l'Afrique tout à l'heure.
Et en fait, les deux œuvres qui ont été choisies pour cette expo, c'est des œuvres qui ont été faites de façon imminente après mon voyage, donc qui sont des œuvres très africaines. Et il y a un dessin, un grand dessin qui s'appelle Créole, justement. C'est moi debout qui tient une posture de méditation ou de prière. Et la moitié de moi, donc c'est moi. L'autre moitié, c'est un peu toute l'iconographie du monde. Donc il y a de la miniature perse, indienne, estampe japonaise, des shunga, etc. Et derrière moi, il y a des grandes statues africaines. C'est très vertical, c'est très fort, et c'est des statues qui ont les deux sexes. C'est un dessin qui est très symbolique et très narratif en même temps, et c'est la première chose que j'ai fait en revenant à Paris, en fait, depuis l'Afrique. Et l'autre, c'est une peinture. En fait, j'ai demandé à un artiste béninois qui s'appelle Prince, qui fabrique des vêtements avec des déchets, de peindre des taches blanches très géométriques sur la peau de sa copine. Et derrière eux, il y a des masques africains. Ces taches blanches, ça fait tout de suite partie aussi à la poudre blanche que les Béninois se mettaient pendant les cérémonies vaudou sur leur peau. Pour moi, c'est des œuvres qui sont pas forcément juste la présence de l'Afrique dans mon travail, mais c'est lié à la présence de l'Afrique en moi.
Donc, tu as envie de retourner en Afrique.
J'ai vraiment envie, oui. J'y ai laissé une partie de moi. Oui. J'ai envie de retrouver cette partie.
Et en ce moment, tu peins quoi? Des nouvelles choses?
Justement, en ce moment, en fait, j'ai eu la chance, un collectionneur d'art africain qui s'appelle Emmanuel Pierrat, qui est avocat, en fait, m'a donné la clé de chez lui. Un jour, il m'a dit, si tu veux utiliser mes masques, tu peux. Donc, j'y suis allée avec une jeune femme que j'ai rencontrée, que j'ai trouvée très photogénique, qui est très belle. C'était aussi un nouveau décor pour moi. Et on a fait une série de photos. Donc, je suis en train de encore travailler sur des objets d'art africain. C'est des scènes assez théâtrales aussi. Le personnage joue, en fait, dans chacune des toiles, joue un rôle avec ses masques.
Oui, mais ce qui est très beau dans tes peintures, c'est effectivement qu'il y a toujours quand même une mise en scène, enfin souvent en tout cas, une mise en scène, une histoire que tu racontes, une petite histoire, une sorte de microcosme avec des situations, des attitudes, des interactions entre les personnages. Ça, c'est quand même un travail un peu de réalisation, quoi, de fiction.
Qu'est-ce que le personnage va faire dans ma toile? C'est très important, puisque j'utilise l'image des gens qui posent pour moi. On ne cherche jamais une pose. La pose est toujours prédéfinie. Mais la plupart du temps, les décors, par contre, c'est plus imaginaire. Et justement, tu parlais d'une petite histoire. En fait, c'est des histoires symboliques. C'est comme dans un rêve. C'est une narration symbolique.
Oui, comme ce qu'on peut effectivement retrouver dans nos rêves.
Exactement.
Ou dans certaines histoires un peu mythologiques aussi.
Oui, oui. Et j'aime bien que ça soit surjoué, ça veut dire, tu disais, oui, côté mise en scène, j'aime bien que ça soit pas une situation réaliste, une situation qu'on vit, par exemple, les gens qui boivent un thé, etc., ça peut être très beau, mais j'aime qu'il y ait quelque chose qui soit, qui fasse travailler l'imagination.
Est-ce que tu regardes aussi tes contemporains?
Et j'ai écouté l'interview de Stéphane Pincréache et ce qu'il disait sur justement la peinture et l'histoire de la peinture des 20-30 dernières années, et qui c'était très juste, parce que moi, quand j'étais aux Beaux-Arts, la peinture, il y avait très peu de gens qui en faisaient. Par contre, je ne me suis jamais prise la tête avec ça, parce que j'ai toujours eu confiance en moi et j'ai toujours voulu être moi-même. Donc le fait que d'autres en fassent pas ou que d'autres en fassent, ça a jamais été un obstacle pour moi. Juste des fois, je me dis, ah ben, il y a 20 ans, il y a 10 ans, on était des gens rares. Aujourd'hui, il y a tellement de peintures de plus en plus. Donc oui, bien sûr, je regarde énormément. Après, malheureusement, je regarde plus sur Insta qu'en vrai. Et il faut dire que Instagram embellit énormément les images. On ne peut pas vraiment voir comment c'est fait une peinture. Et une peinture, c'est avant tout aussi une texture, des couleurs qu'on découvre avec nos yeux dans une vraie lumière en direct. Et juste une image comme ça numérique, c'est, on peut dire que ça donne une impression d'une chose. Ce n'est vraiment pas le réel.
Quand même en exil, on va dire, finalement, puisque tu as été forcée de quitter l'Iran, c'était pas prévu. C'est une situation particulière. Est-ce que l'Iran te manque?
En fait, j'ai mon Iran à moi, avec moi. En fait, il se trouve que pas mal de mes amis d'enfance se retrouvent en Occident. J'ai mes tapis, donc la langue persane, la nourriture perse, mais... Moi, tant que ce peuple est maltraité par ce régime, il n'y a rien qui peut me manquer. Moi, j'ai de l'espoir pour ce magnifique peuple, pour ce magnifique pays, mais tant que ça tourne comme ça, je ne peux pas y retourner. Et je ne suis pas de nature nostalgique. Je regarde plus l'avenir que le passé. J'ai ma mère qui vit en Iran. Elle, quand elle peut, elle vient me voir. C'est pas très souvent, mais ça va. Voilà.
Et c'est-à-dire que tu es interdite d'y retourner ou c'est toi
Je ne suis pas officiellement interdite puisque j'ai toujours mon passeport iranien. Je n'ai pas quitté illégalement les frontières. J'ai pris un avion avec un visa et la bourse de l'État français. Mais en Iran, tu ne sais jamais. Je peux retourner, il peut m'arriver des choses ou on peut emmerder ma mère, mais en fait, aujourd'hui, j'ai même plus envie d'y revenir. Maintenant, avec l'âge, même le fait de devoir, devoir mettre un voile obligatoire, j'ai pas envie. Pourquoi faire? Si c'est... un pays manque, je pense, quand on a des attaches, une maison, vraiment une famille, des amis... des fêtes, des soirées. Moi, ma vie aujourd'hui est vraiment ici. Ma vie affective, sentimentale, mes amis, mon art, tout se développe et tout s'épanouit ici. Je ne suis pas dans un état de manque par rapport à l'Iran, mais j'aime beaucoup ce pays. Enfin, j'aime ce peuple.
Merci beaucoup, Nazanine.
Merci, Julie.
On a abordé beaucoup de sujets. C'est vrai que je pense que c'est aussi tes peintures foisonnantes qui font que, évidemment, comme il y a plein de sujets à l'intérieur d'une même peinture, on a tendance à dériver sur plein de pistes et de chemins qui t'intéressent, qui sont, comme dans tes peintures, finalement, sans hiérarchie, avec une liberté de parole aussi. Je te remercie d'avoir parlé avec autant de passion aussi de ton art, en fait.
Merci, Julie, à toi. Mais aussi, c'est vrai que j'aurais pu parler encore plus, comme je peux peindre encore plus. Donc, c'est vrai que c'est lié... À ma personne, mon personnage.
Nazanine Pouyandé est exposée actuellement dans l'exposition Ex-Africa au musée du Quai Branly à Paris. C'était À l'Atelier, le podcast qui dessine la scène picturale française. Tous les épisodes sont disponibles sur le site internet d'Art District Radio dans la rubrique Art Interview. Et je vous retrouve très bientôt pour un épisode 5.